Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinine et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce samedi 14 mai 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. La 80e flotte iranienne a repoussé un assaut suspect des pirates de mer. 5 personnes sont tombées en martyr et 7 autres ont été blessées dans une agression israélienne au missile contre le centre de la Syrie et l'ECI, nouveau médiateur avec les CDAO pour le Mali. C'était les principaux titres. En voici le journal. La 80e flotte de la marine de l'armée iranienne a affronté des pirates vendredi matin 13 mai, après avoir reçu un message indiquant que des pirates non identifiés avaient attaqué un navire marchand iranien dans le golfe d'Aden, a déclaré la marine dans un communiqué. Après que l'équipe d'escorte de la marine est arrivée dans la zone et a échangé des coups de feu avec les pirates en fuite, les forces de la marine ont réussi à déjouer leurs attaques et le navire marchand iranien est maintenant parti vers sa destination en toute sécurité. En raison de la présence de la piraterie depuis 2008, les flottes navales iraniennes sont constamment présentes dans le golfe d'Aden, la mer Rouge et l'océan Indien et escortent des flottes marchandes de l'Iran et d'autres pays. Actuellement, la 80e flotte navale de l'armée iranienne accomplit sa mission avec le destroyer Alborz et le navire logistique Bushehr dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré vendredi 13 mai qu'une issue bonne et fiable au pourparlers de Vienne visant à relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire était à portée de main si les États-Unis prennent une décision politique et respectent leurs engagements. Dans un message sur Twitter, M. Amir Abdollahian a déclaré que la visite mercredi d'Enrique Mora, coordinateur en chef de l'Union européenne pour les pourparlers nucléaires avec l'Iran, et ses entretiens avec le négociateur en chef iranien, M. Ali Bareilly Kani, ont été une nouvelle opportunité de se concentrer sur les initiatives visant à résoudre les questions en suspens. Vendredi également, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, s'est dit convaincu que suffisamment de progrès avaient été réalisés dans les discussions entre M. Mora et les responsables iraniens à Téhéran pour relancer les négociations sur le nucléaire après 2 mois d'impasse. Le vice-ministre de la diplomatie économique du ministère iranien des Affaires étrangères, Mahdi Safari, a annoncé la tenue de la 18e réunion de la Commission économique conjointe Iran-Cuba du 15 à 17 mai à Téhéran. Le responsable iranien a déclaré qu'afin de développer les relations amicales existantes entre l'Iran et Cuba et d'accroître le niveau des relations commerciales et économiques entre les deux pays, le vice-premier ministre cubain, Ricardo Cabrecias, viendrait à Téhéran à la tête d'une délégation de responsables économiques de ce pays. Dans ce cadre, des réunions bilatérales auraient lieu entre les grandes entreprises des deux pays. La Commission devrait tenir 21 comités spécialisés dans divers domaines tels que le commerce, l'investissement, le transit et le transport, l'électricité et l'énergie, le pétrole et le gaz, les douanes, la banque et la finance, les normes, la santé et d'autres questions importantes. Des documents dans les domaines de la médecine, de l'agriculture, des douanes, de l'alimentation et des vaccins seront également signés en marge du sommet. 5 personnes ont été tuées et 7 autres blessées par une frappe aérienne menée vendredi soir, 13 mai, par le régime sioniste contre le centre de la Syrie, selon le ministère syrien de la Défense. Des missiles ont été tirés depuis la Méditerranée, à l'ouest de Banias, en direction d'une localité dans la périphérie de la ville de Masyaf, où se trouve une installation clé du Centre syrien d'études et de recherche scientifique, qui est la principale institution de recherche et de développement militaire de la Syrie. Précise une source informée, rappelant que les systèmes de défense anti-aérienne de la Syrie ont abattu la plupart des missiles, dont certains ont endommagé des terres agricoles des habitants de la banlieue de Masyaf, dans la province de Hama. Le centre de recherche a été déjà pris pour cible par Israël à plusieurs reprises. La dernière attaque en date remonte au 9 avril. Par ailleurs, un enfant est tombé en martyr alors qu'un autre a été blessé dans une attaque aux roquettes menée par les terroristes soutenue par la Turquie contre les localités de Nobol et Zahra dans la banlieue d'Alep. Les sources ont souligné que les attaques avaient également fait des dégâts matériels dans les propriétés privées et publiques des habitants de cette région. Les forces israéliennes ont encerclé vendredi 13 mai une maison palestinienne dans le camp de réfugiés de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, et l'ont visée avec des obus de mortier pour tenter d'arrêter deux combattants palestiniens à l'intérieur. Les combattants ont riposté, entraînant une impasse de 4 heures qui s'est terminée par la capture par les troupes israéliennes de ces deux combattants palestiniens identifiés comme étant Mahmoud et Anas al-Dabai. Les forces israéliennes sont entrées dans le village de Bourin, près de Jenin, pour arrêter Mahmoud al-Dabai vendredi matin et se sont affrontées avec des Palestiniens armés, blessant 13 d'entre eux, dont 2 gravement et 5 modérément. L'un des blessés graves a été identifié comme étant Daoud Zubaydi, le frère du prisonnier palestinien Zakaria Zubaydi. Il a été transféré à un hôpital de Jenin pour s'y faire soigner. En réponse, le djihad islamique de la Palestine a lancé un cri de ralliement pour que tous les Palestiniens descendent dans la rue, selon les médias palestiniens. Et par ailleurs, un officier israélien, membre de l'unité spéciale du Yamam, blessé lors de ses affrontements à Jenin, a trouvé la mort vendredi. Un officier supérieur de l'armée israélienne a déclaré aux journalistes qu'il avait reçu une balle dans le dos alors que les forces quittaient le village sous le feu des Palestiniens. Des groupes de résistance à Gaza, dont le Hamas, le djihad islamique de la Palestine et le Front de libération de la Palestine, ont félicité les habitants et le bataillon de résistance de Jenin pour avoir courageusement résisté à l'attaque des forces ennemies sionistes. Après le Togo, l'Organisation de la coopération islamique, OCI, se lance dans les négociations pour sortir le Mali de la crise. Depuis de nombreux mois, les autorités maliennes ne parviennent pas à se mettre d'accord avec la CEDEAO sur la durée de la transition démocratique. Une issue est-elle possible? Le Mali et la CEDEAO peuvent-ils trouver un compromis? C'est en tout cas ce qu'espère l'Organisation de la coopération islamique. Le 10 mai, Nassiro Bako Arifari, envoyé spécial pour l'Afrique de l'OCI, est reçu par le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali. Au cours de cette rencontre, il transmet au colonel un message du secrétaire général de l'OCI. La coopération affirme qu'elle considère le Mali comme un état pivot. À travers ce message, l'OCI montre sa volonté de voir une meilleure coopération entre le Mali et les autres pays de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Une semaine avant l'OCI, une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, se rend à Lomé pour discuter avec les autorités togolaises. La délégation a demandé au Togo de se positionner comme médiateur dans les discussions entre le Mali et la CEDEAO. Cependant, le pays est réputé proche des autorités militaires maliennes. Robert Desey, le chef de la diplomatie togolaise, affiche même des liens avec le colonel Goïta. De ce côté, la CEDEAO avait aussi mandaté un médiateur, l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan. L'Algérie veut renforcer ses relations au niveau africain et son rôle de leader régional en termes d'énergie. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a reçu le jeudi 12 mai la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale du Soudan, Ahlam Madani Mehdi Sabid, dans le but d'accroître la coopération énergétique bilatérale entre les deux pays. Les deux parties ont discuté des opportunités d'investissement et d'échange d'expériences, notamment dans l'exploration et la production des hydrocarbures, ainsi que le développement du segment aval. Elles ont aussi abordé les opportunités d'investissement en matière d'engineering, de production de l'électricité et de développement des réseaux électriques au Soudan. Le ministre de l'Énergie et des Mines a rappelé la volonté de l'Algérie de consolider les relations entre les deux pays, notamment dans le cadre de la stratégie de développement des groupes Sonatrach et Sonilkas, qui visent à s'ouvrir sur le marché africain. Il a aussi affirmé la disponibilité de l'Algérie à accompagner le Soudan par le transfert de son savoir-faire et de son expérience. Pour cela, il a été convenu qu'un mémorandum d'entente sera signé prochainement, rapporte le site internet du gouvernement algérien. La ministre soudanaise a quant à elle exprimé le grand intérêt qu'accorde son pays au renforcement de la coopération avec l'Algérie et à renforcer les consultations économiques et les échanges d'expériences afin de réaliser des projets concrets dans les meilleurs délais. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le numéro 2 de l'Union européenne arrêté à l'aéroport de Francfort en quittant Téhéran. L'envoyé de l'Union européenne pour les pourparlers avec l'Iran, Enrique Mora, a été arrêté par la police allemande à l'aéroport de Francfort alors qu'il revenait de Téhéran. Un fonctionnaire de l'Union européenne en mission officielle titulaire d'un passeport diplomatique espagnol, « Ils ont confisqué mon passeport et mes téléphones », a-t-il tweeté. Et peu de temps après, il a ajouté « Maintenant libéré avec mes deux collègues. Nous avons été séparés. Refus de donner la moindre explication pour ce qui semble être une violation de la Convention de Vienne. » C'est plaint Enrique Mora. Cette convention, qui traite des relations diplomatiques, stipule que les détenteurs de passeports diplomatiques bénéficient d'une immunité et ne doivent pas être entravés dans leurs déplacements. Pour rappel, Enrique Mora est parti mardi soir pour Téhéran et a rencontré pendant plusieurs heures, mercredi et jeudi, M. Ali Bareilly Kani, le négociateur en chef du nucléaire iranien. Une source proche des discussions a déclaré que les entretiens de Mora et Bareilly se sont déroulés dans une atmosphère positive et ont bien progressé. Il a ajouté que les pourparlers ont presque atteint leur phase finale. Il semble donc que le régime et le lobby sioniste, qu'on parle le passé, s'opposent et s'inquiètent de toute avancée dans les pourparlers nucléaires et cherchent à entraver le processus de négociation et ne ménageront aucun effort dans ce sens. Le lobby sioniste a une grande influence sur certaines parties de l'appareil de sécurité allemand. Certains rapports des services de sécurité allemands qui ont été publiés exclusivement dans les médias israéliens sur l'Iran confirment ce fait. D'autre part, l'une des questions que Mora a mentionnées dans son deuxième tweet est celle de la condamnation à mort d'Ahmad Reza Jalali, qui est actuellement en prison pour avoir espionné pour le Mossad et avoir aidé et encouragé l'assassinat de scientifiques nucléaires iraniens. La pression exercée sur cette autorité européenne concernant Jalali est en d'autres termes un autre point qui révèle l'origine des pressions de ses actions destructrices. Dans le cas de Francfort, nous voyons l'opposition à la progression des négociations nucléaires qui passe par la pression exercée sur celui qui tente de trouver un accord entre les Iraniens et les Européens. Et il y a aussi le soutien à Jalali, qui est le pion du régime sioniste. Le dénominateur commun de ces deux questions est l'intérêt du régime sioniste et de ses amis. Mais surtout, toutes ces mesures, qui sont le résultat de la confusion du lobby sioniste et du front d'opposition à l'accord de Vienne, sont un signe important et sérieux qu'avec les récents progrès des pourparlers à Téhéran, les négociations de Vienne ont atteint leur stade final.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Le débat dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur les derniers développements relatifs à l'Ukraine, surtout en fait de cette passe d'armes entre la Russie et le régime israélien. La Russie qui dit désormais ouvertement que des mercenaires israéliens sont présents sur le territoire ukrainien pour combattre l'armée des Russes. Je vais dire quelque chose que les politiciens israéliens ne veulent sans doute pas entendre, mais peut-être que cela les intéressera. En Ukraine, des mercenaires israéliens sont aux côtés des extrémistes d'Azov, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Madame Maria Zakharova. Ces propos interviennent suite, si vous voulez, à cette récente déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a suscité la colère des autorités israéliennes. Sergueï Lavrov, qui l'a en fait affirmé, c'était dimanche, qu'Adolf Hitler avait du sang juif. Et dans le même temps, la Russie a annoncé que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l'Union européenne. Et s'agissant de la France, il y avait cette déclaration du président français Emmanuel Macron, c'était hier, de jeudi 5 mai, comme quoi en fait plusieurs centaines de millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaires vont être accordés pour l'Ukraine. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales qui va en fait nous rejoindre dans les minutes à venir. Mais pour commencer notre émission, on va partir tout de suite à Moscou pour rejoindre un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Fabrice Beurre. M. Beurre, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur PSP.
M. Beurre, je viens de lancer le sujet, les derniers développements relatifs à l'Ukraine, très particulièrement cette passe d'armes entre la Russie et le régime israélien. Quelle évaluation portez-vous sur ce qui se passe actuellement entre Tel Aviv et Moscou, M. Beurre?
Tel Aviv a tiré un peu trop sur la corde. Cela a commencé depuis, on va dire, si on prend simplement les derniers événements sur les dernières années, avec l'affaire de l'avion russe détruit du fait de l'action de l'aviation israélienne qui s'était cachée derrière, donc celle de la Syrie. Et puis dernièrement, on peut en voir un élément positif, puisque le premier ministre israélien avait fait en fait la navette, la liaison entre Moscou et Kiev, et semble-t-il avait apporté une possibilité de dialogue. Sauf que ça n'a pas dû plaire évidemment à une partie de la classe politique israélienne, en particulier du protecteur américain. Et aujourd'hui, on voit bien le retour, les déclarations officielles israéliennes où il y a aide entre guillemets humanitaire, aide militaire et condamnation de l'activité russe en Ukraine. Alors même que pour les Russes surtout, c'est une double trahison, déjà certainement la parole donnée d'un point de vue diplomatique lors de ces derniers échanges, mais surtout vis-à-vis des personnes et des groupes qu'ils combattent en Ukraine, à savoir ces bataillons nazis, Azov, Haïdar et autres compagnies. Je précise que malheureusement, ça a été diffusé dans l'armée ukrainienne, puisque beaucoup des officiers de l'armée ukrainienne viennent de ces bataillons. Ce qui explique beaucoup d'ailleurs des activités criminelles que mène aujourd'hui même l'armée ukrainienne. Et donc, pour revenir sur votre question, plus simplement, que peut-on dire ? Peut-on dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la Russie a décidé de mettre les pieds sur la table. C'est-à-dire que ça suffit, cette hypocrisie, et de dire ce qu'il faut dire. Lorsque vous avez des mercenaires israéliens qui sont des anciens militaires, ils ne partent pas par hasard, ils ne partent pas sans l'autorisation de leur gouvernement, encore moins de l'armée. Ils partent effectivement en mission. Et en plus, à côté des bataillons donc d'Azov et autres, qui sont on va dire la pointe de la russophobie et des gens qui mènent des crimes contre les populations russophones en Ukraine, c'est une provocation, on va dire, suprême. C'est la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Donc maintenant, on dit la vérité. Alors, ça gêne, ça les gêne, les histoires des affiliations d'Hitler, mais on va parler des affiliations d'Ashman, qui avait une grand-mère aussi juive. Et alors, c'est une réalité. Est-ce que ça les gêne qu'on dise que le Bétard travaillé avec les nazis jusqu'en 1944-45, et ils vont dire, beaucoup vont dire, et beaucoup de sionistes d'ailleurs vont en parler en disant que c'est une horreur, ce n'est pas vrai. Pourtant, ce sont des éléments qu'on peut trouver dans l'Institut Jabotinsky à Tel Aviv. Faudrait-il encore qu'ils étudient l'histoire même du sionisme, leur propre histoire? Ce serait déjà beaucoup. Rappelons que jusque dans l'Allemagne nazie, il y avait l'interdiction de tout mouvement de jeunesse qui n'était pas la jeunesse hitlérienne, sauf le Bétard, qui avait quoi comme chemise? Une chemise brune et comme drapeau, celui d'Israël aujourd'hui. Donc on peut aller très loin s'ils veulent, et la Russie peut aller très loin si on le veut, parce que les archives de l'Allemagne nazie, à Berlin, on va dire qu'ils ont été récupérés par Moscou. Donc s'ils veulent qu'on aille plus loin, on va aller plus loin. Il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas à leur avantage. Donc il serait temps, et c'est en cela que vous avez ces mises en demeure publiques de la diplomatie russe, de dire si vous voulez aller plus loin, il n'y a aucun souci, on peut y aller, maintenant vous vous calmez. Vous sortez du jeu, sinon, si vous ne sortez pas du jeu et que vous intervenez dedans, vous donc faites partie des belligérants. Si vous êtes partie des belligérants, à ce moment-là, on agit comme tout belligérant, on rend les coups. Et là, les coups, ça peut être plus important, puisque ce ne sera pas des coups militaires qui seront rendus, ce seront des coups au mythe de la fondation de l'État d'Israël et des premiers sionistes. Et ça peut faire très mal. Et je pense qu'à Tel Aviv, ils ont intérêt, comme à New York ou comme à Paris, au quartier Saint-Germain-des-Prés, et ils ont intérêt à réfléchir beaucoup à cette question-là, parce que je pense que ça peut faire du mal. Si tant est qu'aujourd'hui, dans le bloc occidental, ils mettent de la censure, je crois que dans le reste du monde, les gens sont prêts à entendre la vérité.
On va partir tout de suite à Damas pour rejoindre Maître Arnon Develé. Maître Develé, vous avez entendu que M. Beber, vous, que pensez-vous de cette, pour employer l'expression de M. Beber, de cette mise en demeure publique et ouverte, si vous voulez, de la Russie au régime israélien? Et si j'ai bien suivi, en fait, M. Beber, à Moscou, on a cette impression que le régime israélien a franchi la ligne rouge.
Le régime israélien est coutumier de franchir la ligne rouge. Il semble penser qu'il y a un standard de conduite pour eux et un standard de conduite pour les autres. Sauf que dans le contexte de cette façon de faire, si je puis dire, vis-à-vis des Russes, pour le coup, je crois qu'ils se sont trompés d'interlocuteur. Autant il a toujours été possible d'exercer une forme de chantage moral sur les gouvernements occidentaux concernant certaines questions, eu égard au fait que ces sujets étaient figés et faisaient partie d'un certain narratif qui n'avait pas vocation à être remis en cause ou même discuté de manière critique. Autant on s'aperçoit que lorsqu'il s'agit d'imposer ce standard aux Russes, le jeu s'arrête. Les Russes n'ont absolument aucune raison, aucune leçon à recevoir en termes de lutte contre le fascisme ou de lutte contre le nazisme. Ils ont payé le prix fort, à savoir 27 millions de vies. Et comme le soulignait M. Bohr, ils étaient les premiers à libérer les camps et ils étaient les premiers à Berlin. Donc ils ont effectivement énormément de matériel en leur possession. Et que si le régime de Tel Aviv venait à essayer de pousser l'argumentaire dans ce sens-là et d'épouser cette notion selon laquelle les nazis, quelque part d'aujourd'hui, et on a entendu des termes juridiques qui ont quand même des connotations extrêmement marquées, telles que génocide, en ce qui concerne les agissements présumés des Russes dans l'Est de l'Ukraine, on commence à comprendre où cette petite musique nous emmène et dans quel sens il semblerait que les Israéliens semblent se positionner, parce que quand on commence à laisser entendre que les dirigeants, la direction russe se serait rendue coupable d'exactions qui relèvent quelque part de la jurisprudence Nuremberg, on peut penser que quelque part l'objectif c'est d'accompagner cette idée de changement de régime et de juger ensuite, au lieu de l'histoire, en tout cas d'une certaine vision de l'histoire, l'action militaire russe actuelle. Donc tout ça, c'est un petit peu quelque chose qu'il faut lire entre les lignes, mais les signes ne trompent pas, la sémantique choisie ne trompe pas, et je pense que dans ce contexte-là, la diplomatie russe a été extrêmement ferme, elle a été très claire quant au danger que cette escalade sémantique et donc diplomatique peut générer si Tel Aviv continue dans cette direction. Maintenant, les faits sont ce qu'ils sont. Le principal financier du régime kiévien se trouve à vivre en Israël. Il a rapatrié tous ses milliards là-bas. On peut penser que le quiproquo concernant cette rapatriation et cet exil à Tel Aviv, c'est qu'il soit en mesure de continuer à financer effectivement les mercenaires qui s'y rendent. Et ce faisant, quelque part, ça laisse entendre que le régime sioniste a choisi son camp. On peut rajouter à ça que Washington, probablement, met la pression supplémentaire, parce que c'est comme ça que Washington voit les choses. Et à partir de là, ça va être de plus en plus difficile pour le régime sioniste d'essayer de continuer à jouer ce jeu d'équilibriste sans qu'il ne s'y brûle les ailes, si je puis dire.
Monsieur Bohr, je viens de le dire tout à l'heure, la Russie a annoncé que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave de Kaliningrad. Et cette annonce faite par l'armée russe intervient après, si vous voulez, ce rapport qui avait été diffusé par certains médias, y compris dont américains, comme quoi en fait l'armée ukrainienne avait tué en fait des généraux russes grâce aux aides en matière de renseignement Washington, des États-Unis. Monsieur Bohr, quel est d'après vous le message de ces exercices, si vous voulez, de ces tirs de missiles à capacité nucléaire de la part de la Russie, s'il vous plaît?
Alors, deux réponses. La première, la propagande de Kiev est coutumière de vivre dans un monde virtuel. Le métaverse n'existe pas encore, mais chez eux, il est bien présent hein, dans leur propagande à Kiev, puisque si on les écoute, il y a plus de tanks dans l'armée russe, tellement qu'ils en auraient détruit. Ça en devient ridicule. Donc ce qui vient de Kiev n'a pas tellement d'intérêt en réalité. Quand bien même, effectivement, certainement qu'il y a des pertes, si tant est qu'il y ait eu les pertes qu'ils déclarent, qu'ils nous expliquent pourquoi à ce moment-là ils reculent partout. Les Russes doivent être certainement des super-hommes, certainement. Maintenant, cela étant dit, moi je ne reprends jamais ce que vient de Kiev, surtout venant d'un président qui était avant un clown. Aujourd'hui c'est un clown triste, c'est un clown criminel. Mais maintenant, pour revenir sur Kaliningrad, c'est en réponse à l'attitude de l'OTAN. Alors, il y a l'attitude officieuse qui est celle des généraux que nous voyons pas qu'en France dans les médias, mais si on parle de la France, qui viennent, et dont certains officiers français, peut-être à la retraite, et qui disent qu'il faut frapper la Russie avec des frappes nucléaires préventives. Ces gens-là sont des fous. Et lorsque la Russie entend ça, la Russie, elle, ne prend jamais des déclarations à la légère. Même, donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait ce qu'il faut pour prévenir ces choses. Et elle a bien indiqué, surtout à la Pologne, qui est de plus en plus belliciste dans la région, que s'il voulait jouer ce petit jeu, Kaliningrad est prêt à jouer son jeu dans le cadre d'une réponse symétrique, cette fois-ci, à une attaque qu'il voudrait faire, puisqu'on a entendu même des généraux polonais déclarer qu'il fallait envahir évidemment Kaliningrad et qu'il fallait même prendre la Biélorussie et tout l'Ouest ukrainien d'ailleurs pour faire une grande Pologne. Ceci étant dit, on n'est pas très loin de la réalité puisque vous allez voir, et certainement dans quelques semaines, il y a une forte possibilité que les Polonais puissent intervenir dans l'Ouest ukrainien officiellement pour protéger l'invasion russe, alors que les Russes ne s'intéressent absolument pas à l'Ouest ukrainien, qui n'a d'ailleurs même jamais fait partie d'un point de vue historique de l'Empire russe. Donc simplement pour en fait prendre un morceau, on va dire, de l'Ukraine. Donc la réponse à Kaliningrad de l'état-major russe, c'est simplement de dire si on ne bluffe pas. La Russie, lorsqu'elle déclare des choses, elle ne bluffe pas. Ce qu'elle dit, elle va le faire. Donc elle montre qu'elle peut faire, qu'elle peut réagir et qu'à ce petit jeu, l'OTAN ne va pas gagner. À Kaliningrad, il y a les moyens de la politique jusqu'à la Pologne, jusqu'à la frontière allemande de l'offensive militaire russe, ils en ont envie. Ce n'est pas le cas et c'est pas l'objectif russe. L'objectif russe, ça ne concerne qu'une partie de l'Ukraine. Mmh. Ça concerne l'OTAN qui doit s'arrêter. Et donc c'est un message envoyé à l'OTAN, comme quoi si vous voulez jouer, nous sommes prêts, nous avons les moyens qui sont déjà prédisposés, puisque beaucoup, et c'est ça qui est grave, c'est que beaucoup de ces généraux, alors ils sont à la retraite peut-être, mais ils ont une influence, et on s'imagine que certainement ceux qui suivent, comme toujours dans cette société occidentale, où ceux qui arrivent à la suite sont généralement d'un niveau inférieur, sont plus médiocres que leurs prédécesseurs, qu'ils aient la même pensée. Et pour éviter qu'ils aient la même pensée, il faut de temps en temps leur rappeler à la réalité, puisqu'ils en arrivent à croire à leur propre surpuissance. Je rappellerai, je terminerai là-dessus, quand on voit des experts sur les médias français qui ne savent pas placer Donetsk, qui ne savent pas placer le Donbass, qui confondent même certains la mer Noire avec la Caspienne, c'est affolant du niveau que peuvent avoir ces gens-là qui sont à la, qui décident certainement des décisions au niveau de l'état-major français. Donc, de temps en temps, une petite piqûre de rappel, les piqûres, ils aiment bien ça en ce moment en Europe de l'Ouest, donc une petite piqûre de rappel fera du bien, et celle-ci, ces missiles à capacité nucléaire, effectivement, sont une piqûre de rappel, puisque je rappellerai que les missiles en question dont on parle à Kaliningrad peuvent avoir une charge classique, comme peuvent porter une charge nucléaire. C'est-à-dire que si un missile est tiré, ils ne savent pas ce qu'ils vont se recevoir sur la figure. En cela, déjà cela est une dissuasion, et espérons que ce sera compris par les docteurs Follamour de l'OTAN, et j'espère des Européens, puisque les Américains, une guerre en Europe, ça les arrange, mais les Européens, c'est suicidaire.
Monsieur Maître Develet, la France va porter son aide globale à l'Ukraine à 2 milliards de dollars contre 1,7 milliard jusqu'à présent, soit 300 millions de dollars supplémentaires, a annoncé Emmanuel Macron, président français, dès jeudi 5 mai 2012, et dans une vidéo diffusée lors de la conférence internationale des donateurs. De ce nouvel apport ne concerne pas le volet militaire, a précisé en fait l'Élysée. Comment expliquez-vous cette prise de position de Paris dans ce contexte marqué, on vient de le dire, par, si vous voulez, cette passe d'armes entre le régime israélien et, si vous voulez, la Russie, entre le camp occidental et la Russie, qui est maître de voler?
Écoutez, la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est pour un pays dont François Fillon disait dès 2008 qu'il était à la tête d'un État en faillite, On a du mal à comprendre comment le gouvernement français actuel peut générer des centaines de millions jusqu'à, effectivement, comme vous le soulignez, 2 milliards d'euros en assistance à un pays qui, non seulement ne fait pas partie de l'Union européenne, mais ne fait pas partie de l'OTAN. Donc il n'y a absolument aucune obligation légale de se faire. Nous rappellerons que le contexte initial était pourtant très très simple. Il s'agissait de mettre en œuvre les accords de Minsk. Emmanuel Macron porte donc une responsabilité écrasante puisqu'il est quand même aux affaires depuis 2017 et que dans ce contexte-là, il était au nom de la France garant de ces accords avec Madame Merkel et qu'il aurait dû avec elle mettre la pression sur le clown triste Zelensky pour que celui-ci remplisse ses promesses de campagne. Je rappellerai à nos auditeurs qu'il avait fait campagne sur une réconciliation, sur le droit des populations russophones d'Ukraine de pratiquer leur langue et de pouvoir vivre en toute égalité de droit avec leurs concitoyens ukrainiens de l'Ouest, et que rien de cela n'a été mis en place à partir du moment où il a été élu, encore une fois, avec le financement de Igor Komolovski, qui, je le rappelle encore une fois, a établi maintenant son quartier général à Tel Aviv. Donc, dans ce contexte-là, on peut effectivement se poser des questions sur cet alignement, ce suivisme, d'autant plus que Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont censés avoir eu une conversation téléphonique qui a duré 2 heures, et que si on veut vraiment rechercher une solution à cette situation, la première chose à faire, c'est d'arrêter, encore une fois, de fournir le régime kievien en armement. Et lorsqu'on entend effectivement, effectivement une aide alimentaire, une aide humanitaire, on sait très bien que sous couvert humanitaire, il est très facile de faire passer tout un tas d'équipements militaires. Et d'ailleurs, la France a annoncé, même quasi officiellement, qu'elle envoyait ses canons César, qui sont quand même des systèmes relativement sophistiqués. Donc, ce faisant, mettant de l'huile sur le feu, c'est difficile d'imaginer à la lumière de ces événements objectifs, comment la politique et donc la conduite du gouvernement français dans cette affaire soit de nature à mettre, si je puis dire, une forme de restreinte et appeler une solution diplomatique de la crise actuelle.
Monsieur Beurre, est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec Maître Devolé qui dit que voilà, la solution à envisager pour mettre un terme à cette guerre, c'est de cesser d'alimenter en armement, si vous voulez, Kiev?
Oui, l'OTAN sait très bien qu'elle a perdu la guerre. C'est une évidence. Pour tout expert militaire rationnel, ils savent très bien que la Russie l'a déjà gagné. Je rappellerai que la Russie engage maximum 10% de ses capacités en Ukraine. Parce que lorsqu'on dit que l'armée russe n'a pas les capacités, non, elle dose son intervention par rapport à cela. Je rappellerai que l'aide humanitaire, on la retrouve en vente en Ukraine, c'est-à-dire qu'elle est détournée. L'aide humanitaire, c'est de la corruption. L'Ukraine est l'État le plus corrompu du monde, selon les organisations occidentales en charge de faire un rating de la chose. Donc déjà, la seule chose qui compte en Ukraine, le seul mot qui compte en Ukraine, et je connais bien l'Ukraine pour avoir même fait, avant le Maïdan, j'ai été observateur électoral à Kiev pour les dernières élections, j'ai compris à ce moment-là que la seule chose qui comptait, c'était combien. Quelle que soit, c'était l'opposition ou pas l'opposition, c'est une question qui est d'ordre général en Ukraine. Donc maintenant, la Russie a été très claire. Oui, si on veut trouver une solution à ce conflit, c'est simple, n'intervenez pas dans une affaire qui concerne Kiev et Moscou. Point. S'ils n'interviennent pas, à ce moment-là, il n'y a pas de soutien militaire. La Russie obtient ce qu'elle veut plus rapidement. Et il y a à ce moment-là une situation où la guerre s'arrête et un nouvel ordre politique se met en place. Mais c'est cela que ne veut pas l'OTAN. Parce que l'OTAN, ça voudrait dire qu'elle démontrerait sa faiblesse, qu'elle démontrerait que finalement elle ne protège pas, tellement qu'elle a dit qu'elle allait protéger l'Ukraine. Elle s'est pris à son propre piège, avancé par les Américains d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, ils sont dans une situation, ils n'arrivent pas à se retirer. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Européens, je conclue dessus, je vous rassure, les Européens n'arrivent pas à faire marche arrière alors qu'ils ont fait une erreur. Ils devraient reconnaître leur erreur et laisser se terminer ce qui arrivera de toute façon d'une manière ou d'une autre. Et leur intervention militaire aujourd'hui en Ukraine est responsable
des morts aujourd'hui supplémentaires. Et ce sont eux qui devront aller au tribunal et répondre des crimes que vont répondre les militaires et les politiques de la junte de Kiev, qui passeront devant le tribunal, un tribunal spécial qui a été créé d'ailleurs par les Russes et d'autres pays pour pointer la responsabilité et ne pas laisser les crimes de génocide sans qu'ils soient traînés en justice.
Merci infiniment, M. Fabrice Beurre, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Moscou. Mes vifs remerciements vont également à vous, Maître Arnaud de Volet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette émission Focus, portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, a reçu le jeudi 12 mai dans l'après-midi l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani et la délégation qatari en visite à Téhéran. Au cours de cette rencontre, le leader de la révolution islamique a insisté sur l'impératif du développement des relations bilatérales dans les domaines politiques et économiques, affirmant que la solution des problèmes de la région passerait par un dialogue élargi sans qu'il y ait d'ingérence de la part des puissances extra-régionales. Évoquant l'intensification des crimes commis par le régime sioniste contre la nation palestinienne, l'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré « La République islamique d'Iran s'attend à ce que le monde arabe entame une action politique concrète face aux crimes flagrants des sionistes ». Le leader de la révolution islamique a affirmé que la consolidation et la stabilité des relations entre la République islamique d'Iran et le Qatar sont dans l'intérêt des deux nations. Le niveau actuel des transactions économiques entre nos deux pays est malheureusement bas et les chiffres actuels devront être décuplés, a-t-il souligné. Dans le domaine des relations politiques, le terrain est favorable au développement des échanges de vues et j'espère que votre visite en Iran soit un tournant positif pour la promotion des coopérations, a déclaré l'honorable Ayatollah Khamenei. En approuvant les déclarations de l'émir du Qatar, pour condamner les crimes commis par le régime sioniste, le leader de la révolution islamique a affirmé que les injustices et les oppressions que les sionistes ont infligées pendant de longues décennies aux Palestiniens ont imposé aux nations arabes et musulmanes des préjudices et des amertumes. Et le leader de la révolution islamique a ajouté « Les affaires de la Syrie et du Yémen peuvent être réglées par le dialogue, mais ce dialogue ne doit pas s'établir sur la base des rapports de force. Or, les États-Unis et leurs alliés s'appuient sur les leviers militaires et financiers pour dicter leur volonté aux autres parties. Quant à Israël, il a déclaré « Les sionistes, où qu'ils mettent les pieds, sèment le mal et la corruption sans pouvoir réaliser leurs fausses promesses de soutien et d'alliance. Ce sont donc nous qui devons renforcer les relations » et nos échanges de points de vue pour promouvoir une coopération régionale. Le leader de la révolution islamique a émis l'espoir que la République islamique d'Iran et le Qatar rendent opérationnels leurs accords selon un calendrier précis. Le vice-ministre de la diplomatie économique du ministère iranien des Affaires étrangères, Mahdi Safari, a annoncé la tenue de la 18e réunion de la Commission économique conjointe Iran-Cuba du 15 à 17 mai à Téhéran. Le responsable iranien a déclaré qu'afin de développer les relations amicales existantes entre l'Iran et Cuba et d'accroître le niveau des relations commerciales et économiques entre les deux pays, le vice-premier ministre cubain, Ricardo Cabrecias viendrait à Téhéran à la tête d'une délégation de responsables économiques de ce pays. Dans ce cadre, des réunions bilatérales auraient lieu entre les grandes entreprises des deux pays. La commission devrait tenir 21 comités spécialisés dans divers domaines tels que le commerce, l'investissement, le transit et le transport, l'électricité et l'énergie, le pétrole et le gaz, les douanes, la banque et la finance, les normes, la santé et d'autres questions importantes. Des documents dans les domaines de la médecine, de l'agriculture, des douanes, de l'alimentation et des vaccins seront également signés en marge du sommet. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré vendredi qu'une issue bonne et fiable au pourparlers de Vienne visant à relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire était à portée de main si les États-Unis prennent une décision politique et respectant leurs engagements. Dans un message sur Twitter, M. Amir Abdollahian a déclaré que la visite mercredi d'Enrique Mora, coordinateur en chef de l'Union européenne pour les pourparlers nucléaires avec l'Iran, et ses entretiens avec le négociateur en chef iranien Ali Bareilly Kani ont été une nouvelle opportunité de se concentrer sur les initiatives visant à résoudre les questions en suspens. Vendredi également, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, s'est dit convaincu que suffisamment de progrès avaient été réalisés dans les discussions entre M. Mora et les responsables iraniens à Téhéran pour lancer les négociations sur le nucléaire après 2 mois d'impasse. Des sources palestiniennes ont rapporté que l'armée israélienne a attaqué les funérailles de Shirin Abu Akala, journaliste palestinienne qui a été tuée en martyr par les forces du régime sioniste à Jenin. Selon des sources locales, l'armée sioniste n'a pas autorisé le déplacement du corps de Shirin Abu Akala sur les épaules des personnes en deuil et a renvoyé son corps à l'hôpital. Le Croissant Rouge palestinien a annoncé que des dizaines de personnes ont été blessées dans l'attaque des occupants israéliens contre les funérailles de la martyre Shirin Abu Akala devant l'hôpital français de Qods. Des sources locales ont annoncé que le corps de cette journaliste palestinienne sera enterré au cimetière Sidi Daoud à Qods. De hauts responsables en Israël admettent qu'il n'est possible au mieux que de réduire les dégâts de l'incident. Il s'agit d'une situation d'urgence à caractère illustratif et tout ce que nous pouvons espérer à l'intérieur d'Israël, c'est de perdre quelques points. Shirin Abu Akala a été abattue le mercredi 12 mai par les forces du régime sioniste alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne à Jenin. Un collègue journaliste a été aussi blessé au cours du même incident. Quelques heures avant ses funérailles, les forces militaires israéliennes ont de nouveau attaqué le camp de réfugiés de Jenin. Les troupes israéliennes ont ouvert le feu à balles réelles et tiré des balles en caoutchouc sur des jeunes Palestiniens qui tentaient de leur barrer le passage. Des militaires sionistes ont également encerclé plusieurs maisons du quartier d'Al-Adaf pendant l'attaque. L'armée israélienne n'a pas autorisé les ambulances à entrer dans le camp et a empêché l'équipe de secours d'atteindre le quartier d'Al-Adaf et l'a encerclé, a déclaré une source. Selon le ministère palestinien de la Santé, 13 Palestiniens ont été blessés, dont plusieurs dans un état critique. Les forces d'occupation israéliennes ont ouvert le feu sur une ambulance du camp de Jenin qui devait transporter les blessés. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, a prononcé un discours lors d'un meeting électoral organisé dans la Beka. « Je vous remercie pour cette présence massive qui surprendra les comploteurs qui ont parié ces dernières années pour renverser la communauté de la résistance. Votre présence massive reflète votre fidélité à la résistance, car vous êtes le peuple de la résistance, sa main forte, son esprit, ses yeux, son cœur et ses émotions. » La Beka et son peuple ont toujours été une partie essentielle de la résistance, a déclaré le secrétaire général du Hezbollah libanais. Dans une autre partie de son discours, Saïd Hassan Nasrallah a déclaré que la martyre Shirin Abu Akala était un témoin des crimes de l'ennemi israélien et de l'injustice pratiquée contre le peuple palestinien. Nous espérons que son sang réveillera les consciences mortes et ravivera le bien et l'honneur qui restent dans cette nation. Les premiers à ressentir la honte et le déshonneur sont les conciliateurs, et le sang d'Abou Akala est une tache sur leur visage et leurs mains, a déclaré Nasrallah. Ils veulent que les citoyens de la Beka abandonnent la résistance et ses armes par un bombardement politique, médiatique et financier. Le siège, la pression, les accusations et la déformation visent à faire tomber la résistance, et c'est le titre qui a été mis en avant dans cette bataille électorale. Washington a aidé ses alliés à faire sortir clandestinement du pays l'argent des dépesants libanais. Ceux qui ont formé leur liste électorale à l'ambassade des États-Unis doivent demander à Washington de restituer l'argent des dépesants libanais après qu'il ait été sorti en fraude. Les États-Unis interdisent les investissements au Liban et s'efforcent d'affamer le peuple libanais, a-t-il déclaré. Et le secrétaire général du Hezbollah libanais a conclu en disant que nous avons assisté durant les campagnes électorales à un état de haine sans précédent au Liban, sans manquer de souligner que voter le jour des élections est un message à tous ceux qui conspirent contre la résistance et l'avenir du peuple libanais. Eh bien, ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie.